Trois heures plus tard, le signor Bocasse frappait à la porte de la maison où était installé Bouville. Il apportait de bonnes informations. Le cardinal Duez irait le lendemain, vers la 9e heure, faire une promenade de santé à une lieue au nord d'Avignon, en un endroit nommé le Pontet, à cause d'un petit pont qui se trouvait là. Le cardinal accepterait de rencontrer tout à fait par hasard le seigneur de Bouville si celui-ci venait à passer dans les parages, à condition qu'il ne fût pas accompagné de plus de 6 hommes. Les escortes devraient rester de part et d'autre d'un grand champ, tandis que Duez et Bouville s'entretiendraient au milieu, loin de tout regard et de toute oreille. Le cardinal de Curie s'entendait à organiser le mystère.
« Guccio, mon enfant, vous me sauvez, et je me souviendrai toujours de vous en savoir gré !»
dit Bouville, dont la santé, avec l'espérance revenue, s'améliorait un peu. Le lendemain matin, donc, Bouville, flanqué de Guccio, du signor Bocas et de 4 écuyers, se rendit au Pontet. L'air était fort brumeux, effaçant les contours et les sons et l'endroit désert à souhait. Messire de Bouville avait revêtu 3 manteaux. On attendit un long moment. Enfin, un petit groupe de cavaliers surgit du brouillard, entourant un jeune homme qui chevauchait une mule blanche et qui descendit lestement de sa monture. Il portait une chape sombre sous laquelle se devinaient des vêtements rouges et avait la tête couverte d'un bonnet fourré à oreillettes. Il avança d'un pas vif, presque sautillant dans l'herbe gelée, et l'on vit alors que ce jeune homme était bien le cardinal Duez et que son adolescence avait 70 ans. Seul son visage, creux de joues, creux de tempes, avec des sourcils blancs sur une peau sèche, avouait son âge. Mais ses yeux avaient gardé la vivacité attentive de la jeunesse. Bouville se mit en marche lui aussi et rejoignit le cardinal auprès d'une murette. Les deux hommes demeurèrent un instant à s'observer, mutuellement déroutés par leur apparence. Bouville, avec son respect inné de l'Église, s'attendait à voir un prélat plein de majesté, un peu onctueux, et non ce farfadet sautant dans le brouillard. Le cardinal de Curie, qui croyait qu'on lui avait dépêché un capitaine de guerre de l'espèce Nogaret ou Bertrand de Gaulle, considérait ce gros homme couvert comme un oignon et qui se mouchait avec fracas. Ce fut le cardinal qui attaqua. Sa voix ne pouvait que surprendre qui ne l'avait pas encore entendue. Voilée comme un tambour funèbre, tout à la fois vive, rapide et étouffée, elle ne semblait pas sortir de lui, mais de quelqu'un d'autre qui se fût trouvé dans les parages et qu'on cherchait instinctivement.
« Vous venez donc, messire de Bouville, de la part du roi Robert de Naples, qui me fait l'honneur de sa chrétienne confiance. Le roi de Naples, répéta-t-il. C'est fort bien, mais vous êtes aussi envoyé du roi de France. Vous étiez grand chambellan du roi Philippe, qui ne m'aimait guère. Je ne sais trop pourquoi d'ailleurs, car j'avais agi à sa convenance lors du concile de Vienne pour faire supprimer les Templiers. »
Bouville comprit que l'entretien allait prendre un vrai tour politique et se sentit, les pieds dans un champ de Provence, comme si on l'interpellait au conseil étroit. Il bénit sa mémoire de lui fournir un argument de réponse.
« Il me paraît, monseigneur, que vous vous étiez opposé à ce qu'on décréta d'hérésie le pape Boniface, et le roi Philippe ne l'avait pas oublié. Mais sire, en vérité, c'était trop me demander. Les rois ne se rendent point compte de ce qu'ils exigent. Quand on appartient au collège dans lequel se recrutent les papes, on répugne à créer de tels précédents. Un roi, lorsqu'il monte au trône, ne fait point proclamer que son père était traître, adultère et pillard, bien que ce soit souvent le cas. Le pape Boniface est mort fou, nous le savons, en refusant les sacrements et en proférant d'horribles blasphèmes. Mais il avait perdu l'esprit parce qu'on l'avait souffleté sur son trône. Qu'aurait gagné l'Église à étaler cette honte ? Quant aux bulles publiées par Boniface avant qu'il fût fou, elles présentaient, pour toute hérésie, de déplaire au roi de France. Or, en telle matière, le jugement appartient au pape plutôt qu'au roi. Et Clément V, mon vénéré bienfaiteur, vous savez que je lui dois d'être le peu que je suis, le pape Clément était de cet avis. Monseigneur de Marigny non plus ne m'aime guère. Il a tout fait pour s'opposer à moi depuis que le trône de Saint-Pierre est vacant. Alors je ne comprends point. Pourquoi souhaitez-vous me voir ? Marigny est-il encore aussi puissant en France ou bien feint-il de l'être encore ? On affirme qu'il ne commande plus et tout continue pourtant à lui obéir.
Étrange homme que ce cardinal qui accumulait les ruses pour éviter un ambassadeur, puis pour le rencontrer, et dès le premier instant entrait dans le vif des choses comme s'il connaissait de toujours son interlocuteur.
La vérité, monseigneur, répondit Bouville, qui ne voulait pas engager le débat sur Marigny, la vérité est que je viens vous exprimer le souhait du roi Louis et celui de monseigneur de Valois d'avoir un pape au plus tôt.
Les blancs sourcils du cardinal se levèrent.
Le beau désir, quand on m'empêche par cautèle, par argent ou par force d'être élu depuis 9 mois. Non que je m'estime digne d'une si haute mission, mais qu'il est, je vous le demande, ni que je sois plus avide qu'un autre d'une tiare dont je sais bien le poids. L'évêché d'Avignon m'occupe suffisamment, et aussi les traités auxquels je consacre toutes mes ressources de temps. J'ai entrepris un Thesaurus Pauperum, un art transmutatoire sur les recettes d'alchimie, et aussi un élixir des philosophes, qui sont fort avancés et que je voudrais bien voir achevés avant que de mourir. A-t-on changé de décision à Paris en ce qui me regarde? Est-ce moi maintenant que l'on souhaite pour pape?
Bouville constata en cet instant que les instructions de Monseigneur de Valois étaient, comme toujours, aussi impératives que vagues. On lui avait dit « un pape ».
« Mais certes, Monseigneur, répondit-il mollement, pourquoi pas vous ?»«
Alors, c'est qu'on a quelques graves choses à me demander, je veux dire, à obtenir de qui sera élu. Quel service attend-on ?»
Il se trouve, Monseigneur, que le roi est en besoin de faire annuler son mariage pour pouvoir se remarier avec Madame Clémence de Hongrie, dit le cardinal. Vous savez donc le projet? N'avez-vous pas séjourné 3 grandes semaines à Naples et n'apportez-vous pas un portrait de Madame Clémence?
Je vous vois bien renseigné, Monseigneur.
Le cardinal ne répondit pas et se mit à observer le ciel comme s'il y regardait passer des anges.
Annulé? Dit-il de sa voix feutrée, qui se dissolvait dans le brouillard. « Certes, on peut toujours annuler. Les portes de l'église étaient-elles bien ouvertes le jour du mariage? Vous y assistiez et vous ne vous souvenez pas. Il se peut que d'autres se rappellent qu'elles aient été par mégarde fermées. Votre roi est cousin bien proche de son épouse. On a peut-être omis de demander la dispense. » On pourrait démarier à peu près tous les princes d'Europe pour ce motif. Ils sont cousins de tous les côtés, et il n'est que de voir les produits de leurs unions pour s'en rendre compte. Celui-ci boite, cet autre est sourd, tel encore s'évertue sans succès à l'œuvre de chair. S'il ne se glissait de temps à autre parmi eux quelques péchés ou quelques mésalliances, on les verrait bientôt s'éteindre de scrofules et de langueur.
La famille de France, répondit Bouville blessé, se porte fort bien, et nos princes du sang sont robustes comme des charrons.
Oui, oui. Mais quand la maladie ne les prend pas au corps, elle les prend à la tête. Et puis, les enfants y meurent beaucoup en bas âge. Non, vraiment, je ne suis point pressé d'être pape.
Mais si vous le deveniez, monseigneur, dit Bouville, tâchant à reprendre le fil, « l'annulation vous semblerait-elle chose possible avant l'été ?»«
Annuler est moins difficile, dit amèrement Jacques Duez, que de retrouver les voix qu'on m'a fait perdre. »
L'entretien tournait en rond. Bouville, apercevant ses hommes qui battaient la semelle au bout du champ, regrettait de ne pouvoir appeler Guccio ou bien ce signor Boccas qui semblait si habile. La brume était moins dense et laissait deviner, très pâle, la présence du soleil. Un jour sans vent. Bouville appréciait ce répit, mais il était las de se tenir debout et ses 3 manteaux commençaient à lui peser. Il s'assit machinalement sur la murette, faite de pierres plates superposées, et demanda
« Enfin, monseigneur, à quel point en est le conclave ?»«
Le conclave ? Mais il n'y en a point. Le cardinal d'Albano,
vous voulez parler de messire Arnaud Doche, qui vint à Paris l'an dernier, en tant que légat ?»
Pour condamner le grand maître du temple, c'est cela même. Étant cardinal Camerlingue, c'est à lui de nous réunir. Or, il s'arrange pour n'en rien faire depuis que Messire de Marigny, dont il passe pour être la créature, le lui a interdit.
Mais si, à la parfum...
À ce moment, Bouville se rendit compte qu'il était assis alors que le prélat demeurait debout, et il se releva brusquement en s'excusant.
« Non, non, messire, je vous prie... » dit Duez en le forçant à se rasseoir.
Et il vint lui-même, d'un geste léger, se poser sur la murette.
« Si le conclave était enfin réuni, reprit Bouville, à quoi arriverait-on ?
À rien. Ceci est fort simple à comprendre. »
Fort simple assurément pour le cardinal qui, comme tout candidat à une élection, reprenait chaque jour le compte des suffrages éventuels. Moins simple pour Bouville, qui eut quelque mal à entendre la suite, toujours débité de la même voix de confessionnal.
« Le pape doit être élu aux 2/3 des votants. Nous sommes 23, 15 Français et 8 Italiens. De ces 8, 5 sont pour le cardinal Caetani, neveu de Boniface, irréductible. Nous ne les aurons jamais pour nous. Ils veulent venger Boniface, haïssent la couronne de France et tous ceux qui, directement ou à travers le pape Clément, mon vénéré bienfaiteur, l'ont pu servir.
Et les 3 autres
haïssent Caetani. Il s'agit des 2 Colonna et de l'Orsini, rivalités ancestrales. Aucun de ces 3 n'ayant lieu d'espérer pour soi, ils me sont favorables dans la mesure où je fais obstacle à Francesco Caetani, à moins qu'on ne leur promette de ramener le Saint-Siège à Rome, ce qui pourrait remettre un instant tous les Italiens d'accord, quitte ensuite à les faire s'assassiner entre eux.
Et les 15 Français?
Ah, si les Français votaient ensemble, vous auriez un pape depuis beau temps. Au début, 6 m'étaient acquis, vers lesquels le roi de Naples, par mon entremise, s'était montré généreux.
6 Français, compta Bouville, et 3 Italiens, cela nous fait 9.
Eh oui, messire, cela fait 9, et il nous faut 16 voix pour avoir le compte. Notez que les 9 autres Français ne sont pas assez nombreux non plus pour avoir tel pape que voudrait Marigny.
Il s'agit donc de vous gagner 7 voix. Pensez-vous que certaines puissent être obtenues par argent? J'ai moyen de vous laisser quelques fonds. Combien comptez-vous par cardinal?
Bouville crut avoir amené la chose fort habilement. À sa surprise, Duez ne parut pas bondir sur la proposition.
Je ne crois pas, répondit-il, que les cardinaux français qui nous manquent soient sensibles à l'argument. Ce n'est point que l'honnêteté soit chez tous la majeure vertu, ni qu'ils vivent dans l'austérité, mais la peur que leur inspire Messire de Marigny l'emporte pour le moment sur l'attrait des biens de ce monde. Les Italiens sont plus âpres, mais la haine leur tient lieu de conscience.
Ainsi, dit Bouville, tout repose donc sur Marigny et sur le pouvoir qu'il a auprès de 9 cardinaux français.
Tout dépend de cela, Messire, aujourd'hui. Demain, cela peut dépendre d'autre chose. Combien d'or pouvez-vous me remettre ?
Bouville écarquilla les yeux.
Mais vous venez de me dire, monseigneur, que cet or ne pouvait vous servir de rien.
C'est mal m'avoir compris, messire. Cet or ne peut point m'aider à conquérir de nouveaux partisans, mais il me serait fort nécessaire pour garder ceux que j'ai et auxquels, tant que je ne suis point élu, je ne puis donner de bénéfices. La belle affaire si, quand vous m'aurez trouvé les voix qui me manquent, j'avais perdu entre-temps celles qui me soutiennent.
De quelle somme souhaitez-vous disposer?
Si le roi de France est assez riche que de me fournir 6 000 livres, je me charge de les bien employer.
À ce moment, Bouville eut à nouveau besoin de se moucher. L'autre prit cela pour une finesse et craignit d'avoir avancé un chiffre trop élevé. Ce fut le seul point que marqua Bouville dans tout l'entretien.
Même avec 5 000, chuchota Duez, je serai en mesure de faire face. Pour un temps.
Il savait déjà que cet or, pour la plus grande part, ne quitterait point sa bourse, ou plutôt servirait à étouffer ses dettes.
« La somme, dit Bouville, vous sera remise par les Bardi. »«
Qu'ils la gardent en dépôt, répondit le cardinal. J'ai un compte chez eux. J'y puiserai selon les besoins. »
Après quoi, il se montra soudain pressé de remonter sur sa mule, assura Bouville qu'il ne manquerait point de prier pour lui et qu'il aurait plaisir à le revoir. Il tendit au gros homme son anneau à baiser, et puis s'en repartit, sautillant dans l'herbe comme il était venu.
Le curieux pape que nous aurons là, qui s'occupe d'alchimie autant que d'église, pensait Bouville en le regardant s'éloigner. Était-il bien fait pour l'état qu'il a choisi?
Bouville, au demeurant, n'était pas trop mécontent de soi. On l'avait chargé de voir les cardinaux, il était arrivé à en approcher un. De trouver un pape, ce Duez paraissait ne pas demander mieux que de l'être. De distribuer de l'or, c'était chose faite. Quand Bouville eut rejoint Guccio et lui eut rapporté d'un air satisfait les résultats de son entrevue, le neveu de Tolomei s'écria
« Ainsi, messire Hugues, vous êtes donc parvenu à acheter fort cher le seul cardinal qui fut déjà pour nous. »
Et l'or que les Bardi de Naples avaient par Tolomei prêté au roi de France retourna aux Bardi d'Avignon pour les rembourser de ce qu'ils avaient prêté au candidat du roi de Naples.